Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai été jetée dehors parce que je suis allée négocier un contrat de plus d'une dizaine de millions avec des tapettes et une vieille robe? Non? Donc je raconte ça aujourd'hui. Avant de commencer, je dirais que ceci est un safe space, donc la personne qui se moque de moi, je vais pas lui pardonner. On est d'accord. Donc, on est en 2013, à l'époque je suis encore traductrice, la traduction qui a été mon premier boulot parce que j'ai un master en traduction, donc c'est ce à quoi j'ai été formée. On est en 2013 donc et je reçois un appel. Une personne qui me dit qu'elle a un collaborateur qui recherche des traducteurs parce que la personne est en train d'ouvrir une entreprise au Sénégal et veut traduire des contrats en urgence. Ce jour-là, je ne sais plus où j'étais. La personne me dit, il faut rencontrer cette personne-là aujourd'hui parce que c'est vraiment urgent. Elle a vraiment besoin de traducteur pour faire ce travail-là. Je demande l'adresse pour aller voir la personne. L'adresse m'est donnée. Mais avant d'y aller, je fais le travail à faire. C'est-à-dire que j'appelle mon équipe de traducteurs avec qui je travaille souvent pour m'assurer qu'ils sont tous disponibles parce que sans leur disponibilité, je ne peux pas accepter le contrat. Ils me disent qu'ils sont disponibles. Je leur donne, parce qu'on m'avait déjà donné un petit peu la, how do you call this, le volume de travail à faire. Donc, j'avais déjà évalué en termes de coût. Donc, je leur partage le coût, je leur partage le volume de travail, je leur partage les délais. Ils sont d'accord, ils me disent que c'est possible. Comme c'est des contrats, j'appelle des traducteurs juridiques certifiés because we need to have the meilleur livrable au monde. Vous me connaissez avec ma réputation. I do not play. Donc, je fais le travail qu'un traducteur ou une traductrice professionnelle doit effectuer avant d'aller rencontrer un client. Quand j'arrive à l'adresse qui m'est indiquée, franchement, l'immeuble m'est extrêmement top. C'est-à-dire que 13 ans après, je pense que j'ai rarement vu, dans les pays africains que j'ai visités, des immeubles d'une telle, comment est-ce que je vais dire ça, d'un tel luxe. J'arrive dans l'appartement qui m'a été indiqué, on me fait asseoir dans le salon, on me dit le monsieur est en train de se préparer, il arrive. Quand le monsieur sort de la pièce dans laquelle il était, but the guy was shining. Des cheveux aux chaussures, the guy, il était brillant. C'est-à-dire que I was like, I need to keep this client because this is money, okay? Et donc quand le monsieur me voit, il regarde à travers le salon du genre, is she alone? Il me demande, c'est vous la traductrice? Je lui dis oui. I feel like the vibe is off. Il s'assoit, il me dit oui, combien d'années d'expérience vous avez? Genre, est-ce que vous êtes diplômée, certifiée? Because, voilà quoi. Je lui donne mes credentials, qui sont plutôt bons. Je lui parle de mon équipe de traducteurs qui est déjà mobilisée. Je lui parle des traducteurs certifiés, juridiques certifiés avec qui on travaille. And then, il me recommunique une fois de plus, le volume de travail, les délais, et il me demande le montant. Je pense que ça faisait quelque chose comme 15 millions, si je ne me trompe pas. Et quand je dis 15 millions, mais le gars me regarde, du genre, je vois le mépris dans son regard, mais je comprends pas. And then, he's just like, what? Je vais te payer 15 millions, quoi. Genre, à toi, je vais te payer 15 millions. Et, je n'ai pas compris comment, en un temps de mouvement, j'étais foutue dehors. I didn't get what happened. I was just thrown out. Je sors de l'appartement, je marche lentement parce que je réfléchis. En fait, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois devant l'immeuble, je reçois un appel. Je reçois l'appel de la personne qui m'a recommandé à ce monsieur et qui me dit, mais il vient de m'appeler là. Est-ce que c'est toi qui es allé le voir? Est-ce que c'est toi qui a honoré le rendez-vous? Je lui dis oui, je suis encore devant l'immeuble. Il me dit, non, je pense pas. What happened? Qui est-ce que tu as envoyé pour voir le monsieur? I'm just like, comment ça qui j'ai envoyé? On est au téléphone, je dis que je suis devant l'immeuble, il vient de me foutre à la porte. Il me dit non, parce que moi j'ai eu le monsieur, et il me dit que toi tu as envoyé une farceuse pour te représenter. Il a pas compris, la personne qui était en face de lui, mal fagotée, qui parle en dizaines de millions, alors qu'on est certain quand on la voit qu'elle n'a jamais tenu 150 dans sa main, quoi. What happened? Tu dis que tu as envoyé qui? And I'm like, it was me. C'est moi qui suis allée au rendez-vous. Et le gars me dit, mais franchement, en tout cas, il a dit que il ne veut pas travailler avec cette équipe de farceurs. He's out. Il trouvera quelqu'un d'autre et que plus jamais je ne recommande des gens comme ça. Donc, il faut qu'on se voit pour que tu m'expliques ce qui s'est passé. Je pars de là et je vois ma sœur parce que j'avais rendez-vous avec elle juste après. Et je vais la voir et je raconte ce qui s'est passé. Je lui dis, ouais, là, je sors d'un rendez-vous que j'ai pas compris. J'ai communiqué au client toutes les informations dont il avait besoin et il m'a foutu à la porte. Elle me dit, OK, c'était pourquoi, en fait? Et donc, je lui explique que c'était un client qui voulait faire traduire des contrats pour une entreprise qu'il est en train d'installer au Sénégal, une entreprise de BTP. Ce sont des étrangers qui viennent s'installer. And he wanted, some contracts to be translated en urgence. Elle me dit, OK, d'accord, c'était en visio, je comprends pas. Tu étais là-bas tout de suite. Je lui dis, mais je sors de là. Elle me dit, OK, tu as fait un crochet chez toi avant qu'on se voit ou, what happened? Je lui dis, non, mais je sors de chez le gars. Elle me dit, habillée comme ça. Je lui dis oui. En fait, je ne vois pas la pertinence de la question. Elle me dit, tu allais négocier un contrat d'une dizaine de millions et plus avec des tapettes, une vieille robe de plage et un sac à main dont on ne comprend même pas. Enfin, la forme, la texture, les cheveux. What happened? C'est-à-dire que quand on t'a appelé, tu étais où et puis tu ne peux pas rentrer à la maison, te changer. I'm like, me changer pourquoi en fait? Me, I'm fine. C'est pas ça qui compte en fait. C'est ce que je suis capable de faire. C'est mon track record en tant que traductrice. Ce que je peux livrer en termes de travail. Elle me dit, mais en fait, toi, tu n'as absolument rien compris. C'était normal que tu te foutes à la porte. Tu es tout sauf fiable quand on te regarde. Commençant par la coiffure, vieille twist sur la tête. La robe, on ne comprend pas trop ce que c'est. Les babouches aux pieds, avec la poussière de Dakar, tes pieds sont poussiéreux. Le sac, on ne sait pas. On ne sait pas. Et tu vas discuter avec un monsieur alors que quand on te voit, c'est-à-dire que on a peine à croire que dans ta vie, tu as eu 50 000. Et tu vas dire 15 millions à quelqu'un. How is it even possible? Il m'a fallu 8 longues années pour comprendre ce qui s'était passé. Pendant 8 ans, j'ai pensé que ce monsieur était un goujat. Je pensais que ce monsieur n'avait pas compris l'essence d'une collaboration. Je pensais que ce monsieur était le problème. Parce que moi, de mon côté, j'avais fait tout ce qu'il y avait lieu de faire. J'avais suivi à la lettre les codes à suivre pour être vue comme une femme intelligente. I did exactly what I had to do. Mon physique n'était pas mis en avant. Je n'étais pas légère. Je n'étais pas aguicheuse. J'étais l'intellectuelle. Sauf pour moi, le monsieur était le problème. Il m'a fallu 8 ans pour comprendre que la bille fait le moine. Ce truisme selon lequel la bille ne fait pas le moine peut être répété ad nauseam, mais le monde fonctionne autrement. Avant de poursuivre, je vais poser une question. Toi, femme qui m'écoute, combien de fois tu as questionné ta tenue alors que tu allais dans un environnement où tu avais besoin de paraître intelligente et compétente? Combien de fois tu as downgrade ta féminité pour ne pas paraître idiote? Combien de fois? Laisse-moi t'expliquer comment est-ce qu'on nous a convaincu qu'être belle, c'est être bête. Je vais te l'expliquer à travers mon histoire parce que je sais que tu reconnaîtras énormément d'éléments et tu t'identifieras à ce que je dirais parce qu'on a sensiblement toutes, peut-être pas la même histoire, mais les mêmes parcours. Commençons par le commencement, les origines, celle de la coquette brillante disqualifiée. Quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement coquette, c'est-à-dire que j'étais extrêmement féminine. J'étais toujours en mini-jupe, toujours en, franchement, bien mise. L'adolescence, c'est l'âge où on commence à imposer son identité, et moi, c'était une identité très féminine, vraiment bien mise, très attirante, on va pas se mentir, et j'en jouais énormément. D'un autre côté, j'étais une lectrice avide. Je lisais bien plus que je lis aujourd'hui. J'ai toujours lu énormément. Et mon père était très à cheval sur tout ce qui était culture, intelligence, brillance, du côté de l'intellect. Donc, j'étais en avance sur beaucoup de mes camarades, pas forcément parce que j'étais plus intelligente, mais parce que j'étais exposée à beaucoup plus d'éléments et je lisais énormément. Sauf que tout le monde pensait que j'étais idiote parce que j'étais coquette. Quand on me voyait avec un livre, c'était « Tu t'es perdu, what are you trying to do, what are you trying to show, what is happening ?» Quand tu étais jolie et que tu le mettais en avant, tu étais forcément idiote. Tu n'étais même pas coquette, tu étais aguicheuse. Tu le faisais parce que ton seul centre d'intérêt, c'était attirer les hommes. Et plus tu en attirais, plus il venait vers toi, plus c'était toi le problème. Et tu étais encore plus un problème parce que tu rejetais les avances. Tu te prenais pour qui? Je parle au passé, mais ça n'a pas beaucoup changé, si on est honnête. J'aimais autant les jolis vêtements que les livres, mais les livres, I don't know, personne en dehors de ma famille qui me voyait lire ne pouvait m'imaginer comme quelqu'un qui avait un cerveau. Je me souviens quand j'ai eu ma licence, et ça c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Quand j'ai eu ma licence, ma mère est venue à l'université pour ma remise de diplôme. Elle a rencontré un de ses amis qui venait pour la même chose pour son fils. Et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle lui dit, oh non, c'est Anne-Marie qui a sa licence. Il dit, mais celle-là, elle va à l'école? Du genre, is she not a prostitute? How is it possible that she's graduating? Cette réaction-là est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis fatiguée d'être vue comme bête. J'ai une licence, donc j'ai un baccalauréat, donc j'ai un probatoire, pour ceux qui savent ce que c'est un examen qu'on passe en première, c'est comme un baccalauréat carrément. J'ai un BEPC, j'ai un CEP, c'est-à-dire que j'ai quand même un parcours, mais je suis toujours considérée comme bête. Donc, une fois ma licence en poche, j'en ai ma claque, je me dis, il faut absolument que mon intelligence soit vue. Et étant donné que le problème, c'est que je suis coquette, le problème, c'est que je suis féminine, le problème, c'est que je joue de ma joliesse, ça va s'arrêter. À partir de maintenant, je suis quelqu'un d'intelligent et je vais le montrer, je vais le prouver. Et là, le basculement s'effectue, je deviens austère pour être prise au sérieux. Mon style change radicalement. Je ne mets que des vêtements informes, mes chaussures. En fait, je préfère ne pas décrire. Just know that it was awful. Et quand je dis awful, it was awful. Et j'ai immédiatement été prise au sérieux. En master, au contraire de la licence, mes profs n'étaient pas axés sur la drague, mais plus axés sur m'enseigner leur savoir. Même quand on était en one-on-one dans leur bureau, il n'y avait pas d'écart, c'était vraiment de l'enseignement, de la connaissance partagée, ce que j'avais pas souvent connu en licence en fait. Mon cerveau était respecté et je me sentais respectée. Je me sentais vue comme une personne éloquente, vue comme une personne réfléchie, vue comme une personne qui a des choses à apporter sur la table en fait. Et je sors de l'école avec cette croyance cristallisée qu'il faut ne pas être belle, ne pas être jolie, ne pas être apprêtée pour pouvoir être une personne respectée, réfléchie dans son domaine d'activité. Et ça s'empire quand, après la traduction et après le monsieur justement qui me fout dehors, je bascule dans tout ce qui est engagement citoyen, donc dans les cercles politiques. Là, c'est plus grave. Il ne faut même pas être une femme pour être respectée. Parce que les femmes sont moquées, les femmes sont pas prises au sérieux quand on parle de droits, de devoirs, on leur demande d'aller faire à manger à leur mari, de fatiguer les gens, elles savent pas de quoi elles parlent. Donc, pour que je puisse être vue comme une personne qui a consommé les constitutions de chacun des États africains, je ne devais pas être vue comme une femme. C'est à ce moment-là que mon prénom Anne-Marie a disparu. Je l'ai effacé, j'ai effacé mon visage et je n'ai utilisé que mon nom de famille Befoun. En réalité, les gens pensaient que j'étais un homme. Et ça m'a valu un énorme respect dans le milieu. J'étais très prolifique en termes d'articles, de contenu, de tweets, parce qu'à l'époque, c'est Twitter qui était à la une. Mon visage n'était jamais, jamais vu. Seul mon cerveau était mis en avant et il a été adoubé. À un moment donné, il a fallu sortir de l'ombre parce que pour poursuivre mon action dans le domaine de l'appui à la société civile et la défense des droits et devoirs des citoyens, il fallait répondre aux demandes d'interview de médias comme BBC, Voice of America, Al Jazeera and whatever. Et si j'avais fait l'erreur d'être un tant soit peu coquette, tout ce travail qui m'avait valu autant de respect, en fait, tout ce respect qui m'avait fallu des années à gagner, je l'aurais perdu en une seconde. Donc, je ne vous raconte pas quelle tête j'avais sur les plateaux télé. On va éviter d'en parler. Le pire, c'est quand je me suis retrouvée sur Al Jazeera avec Issa Chiroma, qui a été candidat malheureux au présidentiel dernier au Cameroun, qui était à l'époque, il était quoi, ministre de la communication. On a eu un gros clash sur Al Jazeera. Mon cerveau a été mis en avant. J'ai valablement défendu mes idées. Mais alors, on ne va pas parler de la tronche. On va éviter. Mon austérité, qui n'était pas au départ une conviction, est devenue une nécessité stratégique. Et j'ai compris l'ampleur du mal quand j'ai commencé à travailler pour la plus grande organisation philanthropique au monde. Pour ma première mission, déjà j'ai failli ne pas être sélectionnée pour cette mission-là, c'est après que je l'ai su. Pour ma première mission, j'avais demandé à un collègue, on irait voir des partenaires, quel est le dress code. Il me dit, ah, c'est pas un souci. Le dress code, c'est comme on s'habille pour venir au bureau, c'est relax et tout. Et après, il met une pause. Il fait une pause et il me dit, non, pas toi en fait. Pas toi. Toi, c'est différent. You need to find a way. Et je me dis, mais il se prend pour qui? Est-ce qu'il me parle comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? Mais quand je rentre dans mon bureau, je me pose et je passe en revue ma garde-robe. Déjà, je me regarde ce jour-là. Vieux jean, t-shirt avec des têtes de mort dessus. I don't know why, but I was only wearing des t-shirts de manga, des t-shirts avec des têtes de mort dessus, des jeans, on va pas en parler, les chaussures, on va même parler, in fact, on va éviter de parler des chaussures, ok? C'était mon armure de femme intelligente. Seul mon cerveau avait de la valeur. Tout le reste ne comptait pas et tout le reste ne devait pas compter. J'ai planté le décor pendant 15 minutes. Je vous ai raconté mon parcours, je vous ai raconté comment est-ce que cette croyance qu'il fallait être moche et pas apprêté pour pouvoir mettre en avant son intelligence était quelque chose qui était ancré en moi, non pas parce que j'y croyais vraiment, mais parce que c'est ce que la société m'avait renvoyé, c'est le message que j'avais compris par le fait que quand j'étais coquette, j'étais considérée comme bête et aguicheuse. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous reconnaîtrez dans ce « on me jugera uniquement sur mon intelligence ». Oui, la femme pas coquette paraît plus intelligente. Oui, la femme très coquette paraît aguicheuse. Malheureusement, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. L'autre pan de la vérité, c'est que l'intelligence ne se voit pas au premier regard, mais la présence se ressent dès le premier regard. Donc, tu peux paraître aussi intelligente que tu le veux en tuant ta féminité, en tuant ton style, en tuant ta coquetterie, en tuant ta joliesse. Mais ce que tu oublies, c'est que, ou alors ce que tu tues également la présence et la prestance que tu peux avoir qui vont te servir et qui sont de grands atouts pour ton intelligence. Développer sa prestance, ce n'est pas dire qui on est entièrement. Ce n'est pas dire je suis aguicheuse, je suis intelligente or whatever. Non, c'est imposer, c'est s'imposer. Et une personne qui s'impose, c'est une personne qui est écoutée, qu'elle soit conne ou pas. C'est-à-dire qu'elle est d'abord écoutée avant d'être catégorisée. Je vais t'expliquer le rôle que ça joue dans le monde professionnel. Quand je m'habillais comme un chiffon dans cette organisation, tout le monde savait que j'étais intelligente. Tout le monde savait que j'étais brillante, c'est la raison pour laquelle j'avais été embauchée. Mais personne ne donnait la parole. Personne. Dans les meetings, j'étais là pour écouter. Après cette première mission-là, j'ai radicalement changé mon style. Au point où même les plus stylés de l'organisation venaient me demander « Mais où est-ce que tu as acheté ton boubou ?» Because I was on point. Et une fois que je suis devenue on point, toutes les missions se sont ouvertes à moi. J'ai fait le tour du monde. Like, for real. J'étais dans les cercles dont je n'aurais jamais pu rêver. J'étais à la table du Global Leadership. Quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, juste parce que ma prestance, ma présence avait changé. Je vais revenir sur le « on me jugera sur mon intelligence ». Effectivement, on te juge sur ton intelligence et on estime que tu es extrêmement brillante, non seulement dans ce que tu fais, mais tu excelles également dans l'absence de présence. Très souvent, on dit, oui, ce sont les incompétents qu'on promeut. Ma collègue était ici, franchement, elle ne faisait pas grand-chose. C'est elle qui a eu une promotion et c'est à moi de la former pour qu'elle puisse avoir son rôle. Pourtant, j'étais là, moi, je n'ai pas eu la promotion. S'il faut être honnête, ce n'est jamais une question d'injustice. La personne qui est promue alors que toi, tu n'es pas promue, a quelque chose de plus que toi. Soit elle a une visibilité sur laquelle elle a travaillé. Toi, tu es en mode, non, mon travail va parler pour moi, mes résultats vont parler pour moi. Elle, elle fait pas ça. Elle partage vocalement, oralement, verbalement ses résultats. Soit elle incarne ce qu'on recherche. Ta limite à toi, c'est que tu penses que pour ce poste plus avancé, on a besoin de l'intelligence. Non, en réalité. On a besoin de l'intelligence, de la capacité à faire le travail, mais aussi la capacité à représenter l'entreprise ou l'organisation. Et ça passe par la mise. Regarde-toi comment tu te mets et imagine-toi dans des cercles de pouvoir. Est-ce que la manière dont tu te mouvras dans ces cercles-là est alignée à ce que le poste demande? Est-ce que quand on te voit, on sent cette présence et cette prestance-là? I am not sure. La vérité, c'est que la manière dont tu t'es positionné comme une bonne seconde, c'est-à-dire une personne qui fait un excellent travail dans l'ombre et ça ne la dérange pas. C'est la raison pour laquelle tu deviens la numéro 2 de ta collègue qui était promue et c'est à toi de la former. Parce que tu es bonne pour ce rôle-là. C'est ça que tu as montré aux gens. C'est ça que tu as prouvé. Tu es une travailleuse de l'ombre. Tu es le cerveau dont l'incarnation de l'entreprise a besoin. On n'a pas besoin de toi pour incarner l'entreprise. On a besoin de toi pour être le cerveau de la personne qui va incarner l'entreprise. C'est fou parce qu'on t'a convaincu toute ta vie que si tu es coquette, tu prouves au monde que tu n'es pas intelligente. Et si tu veux être vue comme intelligente, tu as le devoir de ne pas être coquette. Comme je l'ai dit, ce qu'on a omis de mentionner, c'est l'importance de la présence et de la prestance. Tu es tolérée parce que ton identité est fragmentée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout te donner, on ne peut te donner qu'une partie, et c'est la partie que ton identité telle que présentée réclame ou alors mérite. Ce que tu confonds, c'est valeur et visibilité de la valeur. Tu as de la valeur, mais tu restes invisible. S'il y a une chose que tu dois absolument déconstruire, c'est que l'apparence n'est pas forcément séduction. L'apparence, c'est également un langage. Il n'est pas question de plaire ou de provoquer, mais beaucoup plus d'envoyer un message clair et cohérent sur qui tu es. Tout à l'heure, je te l'ai dit, les personnes qui ont de la prestance, de la présence, sont d'abord écoutées avant d'être catégorisées. Les personnes qui n'en ont pas sont catégorisées avant d'être écoutées. Donc, il ne s'agit pas de séduire pour aguicher, il s'agit de s'imposer pour être écouté. Le langage va bien au-delà de ce qu'on dit. C'est aussi comment on se tient et comment on se met. Et la vérité, c'est que toi, tu ne dis rien. Et comme tu ne dis rien, chacun projette sur toi et remplit ce silence de ce qu'il veut. Notamment, les personnes sans présence, les personnes sans prestance, sont des personnes de l'ombre. Et ce sont des personnes qui aiment être dans l'ombre parce que justement, elles s'attellent à ne pas avoir de présence. Tant que tu ne prends pas le temps de penser consciemment ton apparence, tu vas laisser les autres l'interpréter librement et en faire ce qu'ils veulent. Je veux revenir sur la fragmentation identitaire comme stratégie de survie des femmes. Si je reviens sur mon histoire, celle que je t'ai racontée tout à l'heure, il a fallu tuer ma féminité pour m'imposer et pour paraître digne de certains cercles, digne de certains milieux, digne de m'exprimer face à certaines personnes. Ça m'a servi longtemps, mais je peux vous assurer que ça m'a également desservi. Parce que oui, j'avais accès à ces cercles-là. Oui, on m'écoutait, mais jamais on ne m'autorisait à avoir des positions de pouvoir. J'avais le verbe et ce verbe était utilisé par les autres pour eux se propulser. Je trouvais la chose injuste, mais je me disais aussi un jour viendra, on comprendra que c'est moi qui fais le travail. Personne ne l'a jamais compris. La femme est obligée de choisir ce qu'elle montre pour être tolérée, pour être acceptée dans certains cercles, pour pouvoir avoir une petite place à la table. L'identité fragmentée est acceptable, c'est-à-dire que on te donnera une petite part du fromage. L'identité intégrée, c'est-à-dire toi, dans ton intelligence et dans ta présence, c'est souvent dérangeant parce que tu es une femme. Mais c'est crédible parce qu'effectivement, on t'écoute. La visibilité, c'est pas une récompense. C'est pas que tu fais le travail dans l'ombre et puis un jour, tu es connu comme ça, boum, tu es récompensé parce qu'enfin, on a compris que you have value. Non, c'est une fonction organisationnelle. Tu dois t'organiser pour que ta visibilité soit quelque chose d'effectif. Tu dois travailler dessus. Tout à l'heure, je l'ai dit, certaines positions exigent que tu représentes, que tu incarnes et que tu portes l'image de l'entreprise ou de l'organisation. Si tu es le genre de personne qu'on n'imagine pas à une table de réunion pour discuter des next steps de l'entreprise, si tu es celle à qui on soumet les décisions pour qu'elle travaille dessus, these doors will never be open for you. And no one will open them for you. Parce que pour tout le monde, tu es la bonne seconde, tu es la bonne travailleuse de l'ombre. Si tu refuses cette dimension de ton physique et de ton apparence, tu refuses également certaines responsabilités. Tu refuses certaines opportunités, même si tu en as les compétences techniques. J'avais toutes les compétences recommandées, toutes les compétences recherchées pour ce contrat dont j'ai parlé au début de l'épisode, mais j'ai été foutue à la porte à cause de ma robe, à cause de ma coiffure, à cause de mes chaussures, à cause de mon sac à main. Et aujourd'hui, je ne peux pas en vouloir à ce monsieur quand je me souviens encore, moi, de ses chaussures, tellement elles étaient belles. Et je me souviens également, et ça je l'ai dit, que quand j'ai vu ce monsieur, je me suis immédiatement dit, c'est un client que je dois garder. Il n'avait même pas encore ouvert la bouche. Sa prestance et sa présence avaient tout dit pour lui. On ne peut pas te confier une fonction visible si tu refuses toi-même d'être visible. Comment une personne invisible peut occuper une fonction visible? Ce n'est pas aligné. Ce à quoi tu t'exposes, ce sont des promotions ratées, ce sont des opportunités qui ne viennent jamais. C'est la fatigue de toujours prouver que tu peux faire le travail, prouver que tu as de la valeur et la frustration de voir ton travail servir à la réussite des autres parce que tu confonds humilité et effacement. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, cessez d'être humble. Ce n'est pas nécessaire. Au contraire, la visibilité n'est pas un privilège, c'est une charge et l'apparence est une responsabilité quand on vise des fonctions visibles. Soigner ton apparence, c'est assumer cette charge-là au lieu de la laisser à d'autres. Le choix de ne pas être vu, pour toi, c'est une preuve d'humilité. Pour les autres, c'est un manque de considération envers toi-même. C'est une absence de projection. C'est un refus d'un certain type de rôle. C'est comme ça qu'ils le comprennent. Toi, je te dis, ils voient que je suis humble. Eux, ils se disent, en fait, elle nous montre qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle nous montre qu'elle ne veut pas être visible. Elle nous montre qu'elle se meut, je vais me voir, mieux dans l'ombre. Ce que tu ne choisis pas, il faut que tu comprennes que les autres l'interprètent comme ils veulent l'interpréter. Pour terminer, je vais dire ceci. Il n'y a pas un style de boss lady. Ça n'existe pas. Je ne te demande pas ici d'aller te ruiner dans des tenues extrêmement chères si tu n'as pas les moyens. Je ne te demande pas ici d'aller, d'aller above and beyond. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit premièrement de t'exprimer à travers ton style. Parce qu'en réalité, ce que tu fais en ce moment, c'est éviter justement de t'exprimer à travers un style effacé. Qui est-ce que tu es et comment est-ce que tu veux être vu? N'essaye jamais d'adopter un style qui n'est pas le tien parce que tu l'as vu à la télé et puis tu as aimé. Tu peux aimer, ça c'est normal, mais demande-toi toujours, est-ce que je serai à l'aise dedans? Parce que ça se ressent très vite quand tu es dans des vêtements dans lesquels tu n'es pas à l'aise. On ressent que tu n'es pas à ta place et on comprend que non seulement tu n'es pas à ta place dans tes vêtements, mais tu n'es pas à ta place dans la salle dans laquelle tu es. Et on te relègue une fois de plus dans l'invisible. Donc, quand tu vas vouloir changer ton style, adopte un style dans lequel tu es à l'aise, premièrement. Adopte un style dans lequel tu te sens bien. Adopte un style dans lequel tu te respectes toi-même quand tu te vois. Parce que moi, dans mes vieux jeans et mes t-shirts à tête de mort, je ne me respectais pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'être fonctionnel. Au-delà du fonctionnel, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qui te permet à toi de te considérer de cette manière-là? C'est sur cette base-là que tu dois définir ton style. Ça peut être un style above and beyond if that's what resonates with you. Si je prends mon cas, je ne maquille pas. J'utilise des rouges à lèvres ou des glosses, un eyeliner et du mascara. C'est tout. Je ne mets rien d'autre. Parce que c'est comme ça que je me sens à l'aise. That's my above and beyond. Si je commence à mettre des fonds de teint et des fards et des machins, je ne serai pas moi, je ne me sentirai pas moi, je ne me sentirai pas à ma place. Ça va se ressentir dans ma manière de me mouvoir. Je mets rarement des chaussures à talons parce que ce n'est pas moi. Est-ce que je ne les aime pas? Si. Quand j'en trouve de belles, j'en mets, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que La présence et la prestance, ce n'est pas avoir des talons aiguilles et du maquillage à outrance. Ça n'a rien à voir. C'est te mettre dans des dispositions où quand toi-même tu te vois, tu sens que je te respecte. Dans des dispositions où, quelle que soit la personne en face de toi, tu ressens que tu as le droit de parler à cette personne d'égal à égal. Tu ressens que tu es à ta place. Parce que, quoi qu'on puisse dire, être mal habillé face à des personnes d'autorité nous fait nous sentir petites. Il ne s'agit pas ici de céder à la superficialité. C'est assumer pleinement ce qu'on porte, ce qu'on dit et la place que l'on vise. Le but n'est pas de plaire aux autres. Plaire aux autres, c'est une conséquence. Ce n'est pas l'objectif. Une fois qu'on te sentira à l'aise, une fois que tu auras de la présence et de la prestance, tu vas plaire aux autres. Par contre, si tu vises le fait de plaire aux autres, tu iras above and beyond et tu ne seras jamais à l'aise et on le ressentira. Donc, je répète, le but n'est pas de plaire aux autres. Le but, c'est de travailler ta présence et ta prestance pour que la conséquence soit le fait de plaire aux autres. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment aimé développer ce sujet parce que j'y pense depuis très longtemps. J'avais l'impression, à tort, que tu es ma coquetterie m'aidait énormément pour ce qui était du respect. Oui, j'étais respectée dans ma fonction fonctionnelle, si je peux dire ça comme ça, mais je n'étais pas du tout vue quand il s'agissait d'éléments de réelle importance. Je n'avais pas la tête de quelqu'un qui pouvait gagner beaucoup d'argent. Je n'avais pas l'allure de quelqu'un qu'on pouvait emmener en mission. J'étais bonne pour être une travailleuse de l'ombre. On a à tort l'impression que plus on nous assigne des tâches, mieux ça va. Non, il faut voir la chose de manière globale. Quel est le type de tâche qu'on m'assigne et pourquoi? Après que tu aies écouté cet épisode, dis-moi en commentaire sur Spotify, parce que sur Spotify, tu peux commenter. Dis-moi en commentaire sur Spotify ce que tu as déjà coûté le fait de miser uniquement sur ton intelligence, because we need to talk about this. Avant de partir, n'oublie pas de noter le podcast sur Spotify, Apple Podcast et surtout de laisser une revue parce que ça permet d'amplifier le message et ça soutient mon travail. Ça me permet surtout de savoir que tu es là en fait parce que je suis toute seule derrière mon micro and I don't know if you're there and I need to know if you're there. J'espère que cet épisode t'a remué les méninges et que tu feras ce qu'il faut pour sortir de l'ombre parce que très franchement, tu vaux mieux que ça. Sur ce, people, bye. 1, 2, 3.